voir avec vous deux enseignements du Kacha d'Yitzhak. Lorsque Rabbi Akiva était prisonnier, les Romains l'ont emprisonné, son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui a demandé de lui enseigner la Torah. Il lui a dit l'Amdini Torah. Alors Rabbi Akiva lui a dit Eini melamedcha, je ne veux pas t'enseigner. Alors Rabbi Shimon lui a dit Imein ata melamdeni, ani omer le Yochai Abba. Ça a l'air un peu étrange. Tu m'enseignes pas, je dirai à mon papa. Si. Ou Moschicha la Malchut. Ça devient moins drôle. Je le dirai à mon père. Et mon père, il te dénoncera au pouvoir romain. Alors Rabbi Akiva lui a dit, béni, mon fils, יותר ממה שעגל רוצה לנוק, פרה רוצה להניק. לבש elle désire plus fortement allaiter le veau que le veau désire téter sa mère. Alors il lui a dit Umi besakana. Et pourtant, qui est-ce qui est en danger? C'est le veau. Si sa mère ne le nourrit pas, il va mourir. Ça, c'est ce que nous rapporte la Gemara. C'est Gemara dans Masechet Psachim. Et le Rashbam, qui commente cette Gemara, sur Umi Besakana, alors à Egel Besakana, Uma Alecha Bekach, Vechen Piresh Rashi. Et pourquoi est-ce que tu veux te mettre en Sakana en fait? Et Rashi lui aussi l'explique comme ça. Et c'est incompréhensible ce qu'il lui dit là. Qu'est-ce que c'est que son argument? Mishum de Egel Besakana, parce que le veau est en danger. Malecha Bekar. Madoua lo yeh patle, le Rabbi Akiva, imu mesaken et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit ici que la question c'était. Qu'importe à Rabbi Akiva de mettre son élève, Rabbi Shimon, en danger. On ne comprend pas vraiment très bien ce qui se passe là. Il faut aussi comprendre ce que Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, que si tu ne m'enseignes pas, je dirai à mon père qui te dénoncera. Alors le marchand, devant l'énormité de la chose, me dit, bon, il a exagéré, c'est les paroles en l'air. Mais Rabbi Yitzhak Kotner dit que, même si ce sont des paroles en l'air, même si c'est une exagération, malgré tout, dans cette exagération-là, il y a une intention. Il faut ajouter quelque chose de plus, de telle sorte qu'on pourrait lire dans cette parole d'Ivrei Chachamim Beguzma. On dit que les Chachamim parlent avec exagération. Alors, il dit, ça m'a porté à réfléchir à la chose suivante. Lorsque Moshe Rabbeinu est niftar, lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, on sait que Yoshua a oublié 300 halakhot. C'est-à-dire sur 300 halakhot, Yoshua ne savait plus ce qu'il fallait en dire. Non, 300 halakhot ici. Et il a eu 700 doutes. Et les Bnei Israël ont voulu le tuer. Et Rashi explique de Bikshu Kol Israël Orgo, tout le monde voulait le tuer jusqu'au moment, enfin, ils l'ont contraint, il faut que tu nous dises. Et ce que dit Rashi, on voit bien ce qu'il veut dire, il veut dire que la raison pour laquelle ils ont voulu le tuer, c'est pas pour le punir. C'était pour l'obliger à dire. C'est-à-dire qu'on va lui mettre une telle pression qu'il va se souvenir, qu'il va se rappeler de ces choses-là, de ce qu'il a oublié. C'est pas que parce que tu as oublié, on va te punir, on va te tuer pour cela. Alors, on sait que nulle part on trouve qu'on oblige, on contraint à l'étude. Le remot dans la halakhot de Talmud Torah, il dit qu'on oblige un père à louer les services d'un melamed pour son enfant. Mais il n'y a pas d'obligation directement sur l'étude elle-même. L'obligation, elle est de louer les services du maître. Mais ni le père, ni le chacham ne sont obligés d'enseigner. Ni l'enfant lui-même, d'ailleurs. On ne contraint pas. Donc, si on explique qu'on a voulu, que tout Israël a voulu tuer Yoshua, et que cette volonté de le tuer, ça n'était pas pour le punir, mais pour le contraindre à enseigner, ben, il doit y avoir une autre raison, parce que ça n'existe pas, qu'on contraigne qui que ce soit à enseigner. Lui, il était le roi, c'est-à-dire... En tant que roi, il les a obligés d'aller au Talmud Torah, en quelque sorte. Il n'a pas enseigné. Celui qui enseigne pas, je le tue, mais... Ben les deux, parce que puisque c'est dit sur le père, le chacham, et sur l'enfant. Donc. C'est enseigner et étudier. La Gemara, dans Sota, qui dit que sur toute mitzvah, il y a eu 4 britot. Sur toute mitzvah, on a passé 4 alliances. Les 4 alliances, c'est l'ilmod, ou le lamed, l'ishmor velaasot. L'étudier, l'enseigner, la garder et la pratiquer. Et le Marchaud explique qu'est-ce que ça veut dire ici, l'ishmor. Je traduis par garder. Alors là-dessus, il amène, pas le Marchaud, le Rabbi Yitzhak Kotner, il ramène un enseignement du Breskerov sur Parshat Vaetranan. qui dit que le Brit, l'alliance de Lishmor, c'est à l'obligation spécifique de garder la Kabbalah de telle sorte chez Titkayem Etzlenu. C'est-à-dire, il s'agit d'une obligation de faire attention à ce qu'il a reçu, à le retransmettre, de telle sorte que cette transmission, cette Kabbalah, cette chose qu'il a reçue, reste à l'intérieur du clan d'Israël et se transmette ainsi de génération en génération. Et ça, c'est une obligation spécifique. Ce n'est pas inclus ni dans le l'ilmod, ni dans le lamed, ni dans l'étude, ni dans l'enseignement. C'est sur le... qui eux sont évidemment portent sur l'étude elle-même de la Torah. Tandis que là, lishmor, ça veut dire garder et transmettre à la génération d'après, c'est quelque chose qui n'est pas, si vous voulez, de l'étude elle-même, ni l'enseignement lui-même. Et avec ça, il a voulu expliquer les paroles de Prime de Vologine, qui dit que Ashokheach davar echad mi mishnato, celui qui oublie une chose de sa Mishnah. Marquez que lui, il est chayav mita. Il est passible de mort. Mais Prime de Vologine a dit que ça porte sur les Rishonim, sur les premières générations, chez l'Amdou Balpé, qu'eux apprenaient tout, ils apprenaient par cœur. Et donc là-dessus, le Bresquero m'a dit, c'est justement donc cette obligation de l'Ishmor, elle porte sur la Torah chez Balpé. Parce que c'est elle qui s'appelle Mishnah. Shokheach mi Mishnah. Davar echad mi mishnato, celui qui oublie une chose de sa Mishnah. La Mishnah, c'est elle qui est appelée, enfin c'est la Torah chez Balpé qui s'appelle Mishnah. Ce qu'on dit, la Torah, c'est Mikra, c'est le texte de la Torah. Et la Torah vers un mitzvah, et la mitzvah, c'est la Mishnah. Le Rambam le dit, Torah c'est la Torah chez Birtav, et la mitzvah c'est l'explication de la Torah chez Birtav. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle Torah chez Balpé. C'est ce qui, dit-il, anim seret midor le dor, ce qui se transmet de génération en génération. Et à ce sujet-là, effectivement, il est dit que celui qui oublie une chose de ce qu'il a reçu de sa Mishnah, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire qu'il a oublié quelque chose qu'on lui avait confié afin de le retransmettre. Celui-là, effectivement, il est passible de mort. Ça ressemble à la situation du Navi, du prophète, qui, quand il reçoit sa prophétie, si c'est une prophétie qu'il a à transmettre, s'il ne la transmet pas, lui aussi, il est passible de mort. Seulement, évidemment, après cette période-là, c'est-à-dire que après la clôture du Talmud, alors il n'y a plus de transmission de la Torah chez Baal Peh. Ça passe pas, on ne transmet pas de l'un à l'autre. Et donc il y a plus ce problème de Shokheach davar echad mi mishnato. Puisque ça, c'était sur la Mishnah qu'on se transmettait oralement. Là, il y avait un interdit d'oublier. Voilà, ça, c'est ce que dit Louis Kerov. D'après ça, dit Rav Yitzhak Kouvner, on on comprend bien que quand les Bnei Israël ont voulu tuer Yoshua, jusqu'à ce qu'il lui leur dise les halakhot qu'il a oubliées, c'était pas une obligation de qu'il lui faisait de leur enseigner la Torah. C'était, ça portait sur lui, Yoshua, auquel Moshe Rabbeinu avait confié la Mishnah. D'accord, c'est marqué Moshe kibel Torah mi Sinai umsara li Yoshua. C'est la Mishnah, c'est la Torah orale. Donc, ils ont voulu le mettre la pression pour qu'il ne transgresse pas, lui, Yoshua, l'interdit de n'oublie pas, donc l'interdit qui est lié à la Shmira. Parce que si Yoshua ne le répétait pas, c'est à la chôte, il y aurait eu donc oubli de la transmission, oubli de ce qu'il avait reçu afin de le transmettre, et à ce moment-là, il était passible de mort. Donc il voulait le tuer jusqu'à ce qu'il, comme c'est ça que Rashi veut dire, jusqu'à ce qu'il leur dise. Parce qu'à ce moment-là, il remettait ces paroles-là dans le circuit de la transmission. Yoshua permettait justement que ce que Moshe Rabbeinu lui avait donné se transmette à la génération, puis aux générations à venir. Donc quand Rabbi Akiva ne voulait pas enseigner Rabbi Shimon Bar Yochai, à cause de la sakana, à cause du danger qu'il y avait, c'était parce que il pensait que le Talmud Torah d'un Yachid, l'étude de la Torah d'un individu, est différent du Talmud Torah, de l'enseignement, de l'étude de la Torah du Rabbim, c'est-à-dire de la collectivité. La raison pour laquelle Rabbi Akiva était en prison, c'était parce qu'il avait été makil keilot berabim, comme on dit. C'est-à-dire qu'il rassemblait des foules pour enseigner à des foules. Il voulait leur enseigner la Torah. Et ça, donc, il voulait justement assurer une diffusion à la Torah. Là-dessus, effectivement, même le Rambam est d'accord que Rabbi Akiva avait le droit d'être Mahmir, parce que comme il était un grand bonhomme et qu'il a jugé que c'était nécessaire, donc il pensait que, bon, on a le droit d'enseigner, bien que les Romains, bien qu'on ait ce soit interdit, enseigner en public. Et que ce faisant, il se mettait en danger de mort. Le Rambam qui dit que quand il n'y a pas une mitzvah de Kiddush Hashem, on n'a pas le droit de se mettre pour une mitzvah en danger de mort. Il pensait que Rabbi Akiva, là, il dit, même le Rambam sera d'accord, que vu la stature de Rabbi Akiva et la situation, et sa capacité justement d'enseigner à beaucoup de gens, Rabbi Akiva avait le droit d'être mahmir, c'est-à-dire de s'imposer quelque chose qui ne s'imposait pas à lui, mais que lui avait le droit de s'imposer, à savoir de prendre le risque d'être tué pour enseigner en public. Seulement ça, hein, ça touchait Talmud Torah de Rabbim, Talmud Torah pour la collectivité. Mais le Talmud Torah de Yachid, le Talmud Torah de l'individu, c'était pas absolument nécessaire. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva a dit à Rabbi Shimon, t'enseigne pas, c'était interdit d'enseigner la Torah, je t'enseigne pas, à un individu, je vois pas que j'ai la nécessité de me mettre en danger et de te mettre en danger toi aussi, parce que si on enseignait à l'individu aussi, il risquait sa peau. Je ne veux pas te mettre en danger. Là-dessus, Rabbi Shimon lui a dit, de façon exagérée, il a dit, je vais le dire à mon père et mon père te dénoncera. Avec cette exagération-là, il voulait, en quelque sorte, dévoiler à Rabbi Akiva que les divrei Torah que lui, Rabbi Shimon, demande à ce moment-là, qu'il demande qu'il lui confie, en fait, c'était pas au titre du limoud. C'était pas parce qu'il voulait étudier. Mais son intention, c'était de lui transmettre des divrei Torah sur lesquels il y a l'obligation d'être chômeur. C'est-à-dire, il voulait que Rabbi Akiva lui confie ce qu'il jugeait nécessaire de faire passer aux générations à venir. Donc on soit dans la transmission d'une Kabbalah, Shimon reçoit, et il va transmettre. C'est-à-dire des livrets Torah qui, si Rabbi Akiva ne les transmet pas maintenant, ils seront perdus, ils feront plus, on ne les recevra plus. Parce que c'est des choses qui appartiennent à la Kabbalah, à la transmission, et si on rompt la chaîne, c'est fini, ça, on ne l'aura plus. Parce que l'argument que Rabbi Shimon voulait faire valoir à Rabbi Akiva, c'est que c'est tout à fait analogue à l'argument des Bnei Israël contre Yoshua lorsqu'ils ont voulu le tuer ils l'ont menacé de le tuer pour qu'il leur transmette ce dont il était porteur. Et on a expliqué, n'est-ce pas, c'est que c'est des fameuses halakhot qui ont été oubliées durant la Avelout des Bnei Israël consécutive à la tirade de Moshe Rabbeinu, et si à ce moment-là Yoshua ne les transmettait pas au clan d'Israël, ces paroles-là, ces enseignements-là auraient été perdus, et donc ils ne seraient plus objet de transmission. Ce qu'on dira, ce qu'on utilise, c'est une expression qu'on utilise, on dit Rabbi lo shana'a, apriya minayin lo. Rabbi qui était le maître, c'est son parent, mais qui était le maître de Rabbi Chiya, on dit si Rabbi n'a pas enseigné ça, d'où est-ce que son élève Rabbi Chiya le connaîtrait? Et comment est-ce que on entend que c'était vraiment de cela qu'il s'agissait quand Rabbi Shimon parlait à Rabbi Akiva? D'où est-ce qu'on sait? C'est joli ce qu'il nous a dit là, c'était ça. Mais comment il lui a fait comprendre à Rabbi Akiva que c'était de cela qu'il s'agissait? Mais c'est justement avec l'exagération. Justement en lui disant, je vais le dire à mon père qui va se dénoncer, comme si son père allait le dénoncer aux Romains, quoi. Dans l'exagération, il se trouve justement cette allusion à cette forme de transmission. Puisque à ce moment-là, il entend bien qu'il n'y a de peine de mort, pas de peine de mort même par le ciel, seulement sur ce genre de transmission, puisqu'on a dit qu'on a trouvé nulle part, on trouve nulle part d'obligation de l'ilmod ou l'amed, qui soit où il y a une une sanction, quoi. Mais là, c'était pour que ça ne s'oublie pas. Donc, puisque la kavana de Rabbi Shimon était une kavana de transmets-moi ce sur quoi il y a la fameuse alliance de l'Ishmor, l'alliance de il faut garder cette chose, c'est-à-dire ne pas l'oublier et la transmettre. Alors ça c'était un argument contre Rabbi Akiva. C'est vrai que dans le Limoud, on n'a pas le droit de il n'y a pas d'obligation de se laisser tuer ni de se mettre en sakana, donc. Et donc Rabbi Akiva disait, ben, à ce titre là je ne te transmettrai pas, je ne t'enseignerai pas, parce que c'est pas absolument nécessaire. Talmud Torah de Yachid, c'était pas fondamental. Au contraire, de ce que dit Rabbi Shimon, il n'y a pas de nécessité plus grande que tu m'enseignes maintenant, que tu me confies maintenant ce sur quoi il y a cette mitzvah de cette alliance de Shmira. Tu me confies ce qui ne doit pas être oublié. Parce que toute la différence entre Talmud Torah de Rabbim et Talmud Torah de Yachid, c'est seulement lorsque on est en train de se demander est-ce qu'il faut enseigner ou est-ce qu'il ne faut pas enseigner. Mais quand on vient non pas au titre de l'étude elle-même, de l'enseignement lui-même, mais au titre de la Shmira de la Kabbalah, pour que la chose ne s'oublie pas, il n'y a pas de différence entre un yachid et un rabbi, mais il faut transmettre. Il faut transmettre à une collectivité ou transmettre à un individu, il n'y a pas de différence. En fait, la Gemara, elle rapporte un contre-exemple, en quelque sorte. Il y a ce fameux Rabbi Yehuda ben Baba, qui, lui, s'est mis en danger pour la smicha, c'est-à-dire avant on avait ce qu'on appelait la smicha du temps de Chazal, c'était justement la transmission du droit de juger. Un maître qui pensait que son élève était arrivé à une connaissance, une sagesse telle qu'il pourrait juger, le maître lui disait en quelque sorte, il lui donnait ce qu'on appelle une smicha, c'est-à-dire je m'appuie sur toi, désormais tout le clan d'Israël peut s'appuyer sur toi, on va s'appuyer sur toi, tu jugeras et tu nous guideras en quelque sorte. Et les Romains avaient interdit de donner la smicha, ils voulaient absolument rompre la chaîne, ils voulaient complètement. Et Rabbi Yehuda ben Baba, il s'est mis en sakanat nefashot pour donner la smicha, pour assurer. Parce que ça, c'était une transmission, en quelque sorte. Pour que cette smicha ne se perde pas. Elle s'est perdue aujourd'hui. C'est pour ça que les tribunaux aujourd'hui, les tribunaux rabbiniques, n'ont quasiment pas de pouvoir aujourd'hui. Parce que seul un dayan, un juge, qui a reçu la smicha, peut, par exemple, donner une amende. Même dans les questions d'argent, aujourd'hui un tribunal, ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà du temps de la Gemara, quand il n'y avait plus de smicha, ou en Bavel, il n'y avait pas de smicha, bon, sauf si on trouvait un truc pour se rattacher à ce qui se passait en Eretz Israël, mais on a le droit de. Un tribunal peut dire voilà, tu vas réparer les dommages que tu as causés. Mais prenez par exemple une situation comme celle qui est décrite dans la Torah, où si quelqu'un a volé, et que, bon, voilà, on l'a attrapé, il doit, la sanction que la Torah a prévue pour lui, c'est qu'il doit payer le double de ce qu'il a volé. Alors, une fois, ça correspond à ce qu'il a volé, et il doit payer encore une fois le même montant, voilà, la même valeur. Ça s'appelle Kefel. Et si, par exemple, il a revendu cette chose qu'il avait... disons qu'il est, il a pris un... il a volé un veau. Ou il a volé une vache. Eh bien, il va devoir payer 5 fois la valeur. C'est-à-dire la contre-valeur de la vache, plus 4 fois. Mais un tribunal aujourd'hui, il n'a pas ce pouvoir. Le tribunal d'aujourd'hui, il n'a que le pouvoir de faire payer la contre-valeur. Parce que le reste s'appelle une amende, puisqu'on paye plus que ce qu'on a endommagé. Donc si on paye plus, ça s'appelle knas, ça s'appelle une amende en fait, et les tribunaux qui n'ont pas reçu la smicha n'ont pas le droit de les donner. Donc c'est pour ça qu'on a très très peu de pouvoir, parce que aujourd'hui un tribunal, d'après la Torah, il a très très peu, il n'a pas de pouvoir. Donc c'est très, parce qu'il y a une rupture de la smicha. Il y a eu, vous savez bien, il y a eu une grande histoire dans, enfin, une grande marloquette dans, la, dans l'histoire, à peu près à l'époque du Beit Yosef. Il y a eu une marloquette entre Yerushalayim et Tzfat, parce que certains pensaient que d'après Rambam, on peut commencer la chaîne. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire, voilà, je donne la smicha à mon élève. Les autres pensent que s'il y a eu rupture, on ne peut pas commencer. Ou bien ça, tu remontes quasiment jusqu'à Moshe Rabbeinu, ou alors, tu, bon, si c'est coupé, c'est coupé définitivement. Mais il y avait une marloquette, et à Tzfat, on pensait, d'après Rambam, qu'on pouvait recommencer la chaîne. Et ils ont commencé. Après, ils ont dû arrêter vu les pressions. Et c'est très intéressant que celui qui a reçu la smicha, ou un de ceux, un des peu nombreux qui ont reçu la smicha à Tzfat, c'est le Beit Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo. C'est intéressant parce que c'est lui qui a été, qui est devenu le maître reconnu par tout le monde. C'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch, et il a été reconnu par tout le monde. Alors, on ne peut pas dire que c'est peut-être pas une relation de cause à effet, mais c'est intéressant de voir que lui, il a reçu la smicha. Plus personne n'a jamais été ensuite reconnu par tout le monde. Les rabbinim étaient rabbins dans leur ville, etc., mais lui, il est considéré comme le rabbin de toutes les villes. C'est comme si à Paris, le Morad Atra, le maître, le rabbin de la ville, c'est le Beit Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo. Et à New York, et à Londres, et partout, et à Tel Aviv, et à Yerushalayim, partout, c'est lui. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'obéir. Sinon, pour autrement dire, avant, les rabbinim étaient, ils étaient souverains. Le rabbin de... Ben le petit-fils de Rashi, il ne mettait pas les mêmes tefilines que son grand-père. Dans son étude, il est arrivé à une autre conclusion. Et donc lui mettait, enfin on ne sait pas, mais en tout cas il y a une tefilin qui s'appelle tefilin de Rabbeinu Tam, qui sont ce que les gens qui mettent deux paires de tefilin, c'est ce qu'ils font, parce que l'ordre des parchiot dans les tefilin n'est pas le même. C'est ça la grande différence. Il y a 4 parchiot dans les tefilin et l'ordre n'est pas le même. Et à part ça, il y a un tas d'exemples que le Rav de Paris et le Rav d'Orléans pensaient différemment sur certains points. Et tout le monde pensait que le Shabbat était Shabbat, etc. Mais il y avait des différences sur, justement dans les Mlachot, etc. Toutes sortes de choses. Et on était souverain jusqu'à lui, jusqu'à Shulchan Aruch. À ce moment-là, tout le monde l'a accepté. La smicha était parce qu'on avait... C'est ça une des raisons pour lesquelles, peut-être la raison fondamentale pour laquelle on a écrit la Torah chez Balpé. D'accord ? Parce que c'est un paradoxe. La Torah orale, elle est là, mais regarde, tous ces livres, c'est toute la Torah chez, à part le Chumashim là-bas, tout ça, c'est toute la Torah chez Balpé. C'est toute la Torah orale. Il y a des bibliothèques comme ça, il y en a plein. Pourquoi est-ce qu'on a écrit ? Parce qu'on n'avait plus une densité suffisante de Chachamim pour assurer la transmission orale. Il faut une densité suffisante. Il faut beaucoup de gens pour assurer que tout se transmette. Et les Romains nous ont tué tellement de monde, on ne pouvait pas assurer cette. Alors on a mis le minimum par écrit. À deux endroits, à Yerushalayim et en Babel. Ça a donné les deux Talmuds. Alors la smicha, comme les Romains avaient interdit, donc presque personne n'avait de smicha, mais lui, il s'est mis en danger, il a mis ses élèves en danger, il a donné la smicha. Et ensuite, les Romains, il leur a dit fuyez, et il s'est laissé prendre pour que les autres puissent s'enfuir. Donc il est mort à cause de ça, pour cela. Vous de même, Baba. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai pensait que de la même manière que Rabbi Akiva s'est mis en danger en rassemblant des gens, en enseignant publiquement, mais de la même manière, il doit se mettre en danger pour assurer la transmission de la Kabbalah, en quelque sorte, pour que cette transmission ne s'interrompe pas. Là-dessus, Rabbi Akiva lui a dit, tu sais, en fait, le veau, il veut plus, il veut moins téter, en fait, que la vache veut l'allaiter. C'est-à-dire, je me prive, moi, pas à cause du danger, mais parce que si je t'enseigne, je te mets en danger. Et donc, et il dit, Rabbi Akiva lui dit, la raison pour laquelle je me suis mis en danger de mort, et ça n'a pas marché, malheureusement, ça n'a pas manqué. C'était pour donc rassembler les gens, enseigner publiquement à des. Et que c'était une midata chassidut de la part de Rabbi Akiva de faire cela. C'était pas du tout évident que. Il n'y était évidemment pas obligé, mais comme il était Adam Gadol, et il pensait que c'était une nécessité de l'heure. Et donc, il dit, bon, ça j'avais le droit, mais je n'ai pas le droit, parce que je pense que ce n'est pas une nécessité de l'heure de t'enseigner à toi. Parce qu'on peut enseigner, on peut être marmir sur soi, on ne peut pas être marmir sur les autres. Alors Rabbi Shimon lui a donc rétorqué, mais qui est en danger? C'est le veau qui est en danger. Et Rashi et le Rashbam ont dit Ve'ata amal chabeka, c'est-à-dire moi, Mitzidi, moi en ce qui me concerne, j'y suis prêt. Je suis prêt à me mettre en danger. Je pense que c'est nécessaire et je suis prêt à me mettre en danger. Évidemment, pas pour l'enseignement, encore une fois. Parce que je veux assurer que je veux assurer la transmission. Et donc c'est pas toi qui es marmire sur moi. Donc tu dis Ve'ata, c'est ce qu'il a dit, Ve'ata mal chavekar, c'est pas ton problème. Si moi je veux être, c'est moi qui suis marmire sur moi. C'est moi le veau qui suis en danger. Voilà, c'est une première chose. Donc, ce qui est ici, je crois, très important, c'est cette notion de transmission, qui n'est pas l'étude, qui est la transmission comme d'un corpus minimal, par exemple, de l'ensemble des Mishnayot. C'est ça la situation à ce moment-là. S'assurer qu'une certaines choses vont être transmises qui doivent l'être qui sont... Alors là aussi je m'étais un peu interrogé, parce que ce que Rabbi Akiva allait lui enseigner, est-ce que c'était uniquement ce que lui, Rabbi Akiva, avait reçu de ses maîtres, ou est-ce que ce que Rabbi Akiva va lui enseigner, c'est aussi, dans ce cadre-là, à ce moment-là, à cet endroit-là, parce que Rabbi Shimon était déjà son élève avant, donc il a déjà reçu les enseignements de Rabbi Akiva. Mais il vient lui demander des choses qu'il ne lui avait pas données. Sinon, il n'aurait pas besoin de lui demander. Donc, ce n'est pas tout à fait clair. Ça voudrait dire, ce que Rabbi Akiva avait inventé, ce qu'il avait trouvé par lui-même, ça, il l'avait transmis à Rabbi Shimon, disons. Maintenant, Rabbi Shimon, il vient, il dit, mais transmets-moi ce que toi, tu as reçu. Et peut-être, il faut... Ici, justement, si on veut transmettre ce qu'il a reçu, à la limite, c'est comme... On pourrait même imaginer que ce que Rabbi Shimon vient demander, c'est... Tu m'as donné tout un enseignement. Mais l'enseignement, c'est ce que toi, tu as fait de ce que tu as reçu. Disons, toi, tu as reçu... toi, tu as reçu 1 giga. D'accord ? Mais tu as augmenté cet enseignement et tu m'as transmis 100 gigas. Mais transmets-moi exactement ce que toi tu as reçu, que je sache ce que je suis obligé de transmettre. À la limite, c'est presque même pas du nouveau qu'il va lui enseigner, mais peut-être lui dire, ben voilà les choses telles que je les ai reçues. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. On reçoit, on fait le ménage, c'est-à-dire on prend, on retire, on augmente, selon sa compréhension, et puis éventuellement on transmet ça. Mais ça, c'est pas la Kabbalah qu'il faut transmettre obligatoirement. Par exemple, si on imagine la différence que nous faisons entre la Mishnah et la Gemara qui est la discussion à partir de la Mishnah, la confrontation d'une Mishnah avec une autre, etc. Et ce qu'on transmettait quand on transmettait, c'était la Mishnah, telle qu'elle. Et la Mishnah, on doit la transmettre mot à mot. Chazal disent que Shmaya et Avtalion, qui étaient les Guérim, ils avaient un défaut de prononciation. Et Hillel, qui a appris chez Shmaya et Avtalion, quand il transmettait la Mishnah reçue de Shmaya et Avtalion, il la transmettait avec le défaut de prononciation de Shmaya Vartalion. C'est pour dire, il transmettait avec... Il va transmettre avec l'accent, avec les... Exactement le mot à mot. C'est peut-être ça qu'il lui a demandé. En fait, dis-moi exactement ce que tu as reçu, parce que peut-être qu'il y a des choses que tu as mises de côté, peut-être, dans l'enseignement, quand tu nous enseignais ce que toi tu pensais. Mais je voudrais être dépositaire. Bon. L'explication est très intéressante pour ce qu'elle met en avant, cette histoire de la transmission. Maintenant, c'est un peu difficile de s'imaginer que Rabbi Akiva ne savait pas qu'il était en charge de transmettre ça à quelqu'un qui ne l'avait pas encore fait. Et quand Rabbi Shimon vient, il ne pense pas tout de suite que c'est de ça qu'il faut. Rabbi Akiva, c'est pas. N'importe qui, donc l'explication est jolie. Maintenant, est-ce que c'est possible de lire ça dans le dialogue entre Rabbi Shimon et Rabbi Akiva? Maintenant, d'un autre côté, comme dit le Marchand, c'est exagéré de dire c'est. Et qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Si tu me le dis pas, je dis à mon père qu'il va te dénoncer. C'est mon père, il est flic. On comprend même pas. Il aurait pu dire, je vais aller te dénoncer, non, je vais dire à mon père. Son père, il avait des relations, peut-être, mais qu'est-ce que je vais te dénoncer. Puis en plus, qu'est-ce qu'il va te dénoncer de quoi? Il est déjà condamné à mort, Rabbi Akiva, ici, il est déjà en prison. Donc, qu'est-ce qui pouvait encore lui arriver? On voit bien ce qui lui est arrivé avant qu'il... Il ne l'a pas dénoncé, on voit bien ce qu'ils lui ont fait, donc qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de pire? Oui, ça c'est la fin. Pardon? Là, oui, c'est... Ils vont le tuer après, ils vont le massacrer. Ça, c'est comme ça. Rabbi Akiva, il avait les 24 000 élèves qu'il avait, il les a tous perdus. Et il a recommencé avec 5, certains 17 élèves. Et Rabbi Shimon est un de ceux-là. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, c'est un de ces élèves-là. Tout ce que nous avons, nous, c'est ce que Rabbi Akiva a transmis à ses 5 ou 7 élèves. Imaginez ce qu'on aurait pu avoir si les 24 000, il fallait 12 000, 2 fois 12 000, puisqu'ils étaient à Chabrouta, chaque fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. J'avais dit à un des shiurim que je ne sais pas non plus. Je n'ai jamais vu aucun enseignement. On dit que Rabbi Akiva, il a enseigné des montagnes de halakhot sur les tagim, sur les petites couronnes des lettres. Je ne crois pas qu'on en connaisse une seule. Des halakhot qu'il a enseigné là-dessus. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu que c'est pour ça que je mets les couronnes pour ça, parce qu'il va venir un jour, quelqu'un va venir, ce Rabbi Akiva, et lui va enseigner, il va déduire des montagnes, talé talot, tilé tilim chez l'alachot sur cet agim là. C'est pas pourquoi on ne connaît pas, c'est censé, peut-être ça doit rester caché. Ça fait partie d'un enseignement qui existe, qui se transmet en Kabbalah ou quelque chose. Il vient de Rabbi Akiva, je ne sais pas. C'est moins grave, moins important, mais on ne sait pas non plus, je vous l'avais dit, quand Rabbi Akiva et les autres, d'ailleurs, sont d'Oresh, dans la Haggadah de Pessah, on rapporte, ils disent combien il y avait de 250 makot. Alayam, vous en connaissez une de ces makotes? Alayam, vous n'en connaissez pas une? Il n'y en a aucune qui est présentée comme telle, en tout cas. Il est arrivé des choses, dans le Midrash, on dit des choses, mais on n'en connaît pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y en avait 250? On nous dit même d'ailleurs que chacune des makotes de l'Égypte était 4 ou 5 makotes, mais. Bon, tout était sous le chapitre d'âme. Quatre ou cinq makot qui s'appelleraient d'âme. Pardon ? Oui, oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, si c'est simplement décomposé, est-ce que c'est qu'il y a de la grandeur, je veux dire, c'est quoi ? Oui, il faut dire que c'est une tête de chapitre, et pas une décomposition. Sinon, c'est pas. Bon, c'était une des choses. Je vais voir avec vous. Et l'autre. Toujours sur le fait que Moshe Rabbeinu a reçu Moshe Kibel Torah Messina et Moussara Léoshua, ça c'est le premier maillon de la chaîne de la transmission. Mais en fait, il y a encore un maillon spécial qui lie Yoshua à Moshe Rabbeinu. Parce que Chazal ont dit que Le Sefer Dvarim que Moshe Rabbeinu a écrit, c'était le Vademekom quasiment de Yoshua. C'était son livre de. Pas de chevet, mais enfin, son Vademekom, c'est-à-dire ce qu'il avait toujours avec lui, pour savoir. Et c'est marqué encore que quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Yoshua, Yoshua avait un Sefer Dvarim avec lui. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit que Lo yamushto sefer Torah azot mipicha. Ce livre-là que tu as avec toi, il ne faut pas qu'il quitte ta bouche. En fait. La Gita Bhagavad Valaila, tu dois l'étudier jour et nuit. Donc, on va essayer de voir exactement qu'est-ce que c'était ce lien tout particulier du Yoshua avec le Sefer Dvarim. Hazal disent que lorsque Hagar a vu qu'elle était enceinte d'Abraham, alors son rapport à Sarah a changé, c'est comme le pasuk dit, va attaquer Beinéa. Ça veut dire que Sarah est devenue quantité négligeable à ses yeux. Et le pasuk dit, continue, il dit à ce moment-là, Sarah l'a fait souffrir, va tivrach mi panéa. Et Hagar s'est enfui de chez Sarah. Alors, c'est que Sarah l'a quasiment torturée, elle l'a fait souffrir. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont attachés à essayer d'expliquer pourquoi Sarah avait raison, etc. Jusqu'à ce que, il faut comprendre, elle l'a fait tellement souffrir que Hagar a dû fuir. Alors, il dit qu'il y a un des grands Baalei Moussar de la génération précédente, le précédent donc, qui a éclairé un peu la situation. Il a rapporté une Gemara qui dit que l'Olam, qu'en vérité un homme doit habiter là où habite son maître. Et la Gemara dit la preuve. C'est que tant que Shimi ben Gera, qui était le maître de Shlomo HaMelech, vivait, Shlomo HaMelech n'a pas épousé la fille de Paro. La fille de Paro, c'est la dégringolade de Shlomo HaMelech, oui. C'est celle qui lui a fait voir la nuit en plein jour. Quand il avait dit qu'il épouserait Abad Paro seulement le jour où il aurait fini la construction du Beth Amikdash. Et quand il a fini cette construction, et que le lendemain il devait y avoir l'inauguration, la nuit d'avant il a épousé la fille de Paro. Et comme je vous dis, elle lui a fait voir la nuit en plein jour. Et le matin, c'était le moment d'inaugurer le Beth Amikdash, il ne sortait pas de sa chambre. Et la clé du Beth Amikdash était sous son oreiller. Ils sont venus le secouer, c'est tout juste si on n'a pas raté le Zman pour les corbanotes du matin. Cette sorceleuse de Fit Paro. Bon, et la Gemara, quand on dit, bon ça c'est une parenthèse, la Gemara dit, mais comment tu peux dire une chose pareille? Il y a un autre enseignement qui dit exactement le contraire, qu'un homme ne doit pas habiter à l'endroit où réside son maître. Et la Gemara elle dit, ça dépend. Si il est soumis à son maître, alors il peut y habiter. S'il n'est pas soumis à son maître, alors il ne faut pas qu'il y reste. Qu'est-ce que ça veut dire soumis? C'est qu'il accepte les tochachot, les remontrances de son maître. Et ne pas être soumis, c'est ne pas accepter les remontrances. Celui qui n'est pas capable d'accepter les remontrances de son maître, il ne faut pas qu'il habite à l'endroit où habite son maître. Et ça, disait ce maître du Moussard, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qui va nous permettre de comprendre la relation telle qu'elle est décrite dans la Torah entre Sarah et Menou et Hagar. Donc c'est marqué que aux yeux de Hagar, Sarah était devenue quantité négligeable. Et dans la même phrase, c'est qu'on dit Vatanea Vativrach. Et elle l'a fait souffrir, et elle s'est enfuie. Et évidemment, ici, dans la même phrase, les verbes se rapprochent. Le premier c'est s'adresse, enfin parle de Sarah aux yeux de Hagar. Ensuite, elle l'a fait souffrir, c'est Sarah qui a fait souffrir Hagar. Et elle s'est enfuie. C'est Agar qui s'est enfuie. On comprend bien, mais c'est étrange comme il manque un peu de sujet là dans ces verbes. Devant ces verbes. Alors, on explique que c'était parce que le kavod de Sarah n'était plus très haut aux yeux d'Agar, puisqu'elle disait, elle, ça fait 10 ans qu'elle est avec Abraham, elle n'a pas été fichue de donner un enfant, et moi, du premier coup, j'ai un enfant. Et donc, du coup, Agar est devenu Talmid chez Enokafouf le Rabo, comme un élève qui n'est pas soumis à son maître. Au point qu'elle n'accepte plus la tochacha de les remontrances de Sarah. Et du coup, si c'est comme ça, elle n'avait plus le droit d'habiter là où habitait Sarah, puisqu'elle n'accepte pas ses remontrances. Et donc, c'est comme ça qu'il expliquait. Il disait, c'est pour ça que Sarah lui en a fait tellement voir, mais pour qu'elle ne reste pas là. Et Sarah voulait la chasser. Elle voulait qu'elle n'habite plus là, puisque le din était que son élève, bien que son élève, elle n'acceptait pas ses remontrances, eh bien, il fallait qu'elle s'en aille pour ne pas être en situation de issur. C'est comme ça qu'il explique la démarche de Sarah. C'est intéressant. En tout cas, on voit que l'acceptation de des torahot, des remontrances, dépend de l'acceptation de la Torah. C'est-à-dire, on n'a pas dit que quelqu'un n'a pas le droit d'habiter dans le voisinage de celui qui n'accepte pas sa Torah. C'est seulement marqué si c'est son maître. Seulement par rapport au maître. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là et qui n'accepte pas les torahot, il peut habiter à côté de la personne qui lui ferait les torahot. Seulement si c'est son maître, en Torah ça veut dire, si c'est celui duquel il reçoit la Torah, l'enseignement, alors il y a cet halakha, si tu n'acceptes pas les remontrances, tu n'as pas le droit d'habiter dans ton voisinage. Donc, on voit très bien que c'est le fait de recevoir la Torah, d'être face à quelqu'un qui est son maître, qui oblige à accepter la Torah, sauf à aller habiter ailleurs. Ça veut donc dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, s'il n'accepte pas les torahot, alors la Torah qu'il reçoit de son maître est entachée en tout cas, ou elle a plus sa vraie valeur. Et c'est pour ça que l'élève n'a pas le droit de continuer d'habiter là auprès de son maître. C'est un chidouche. C'est un chidouche dans les relations entre un maître et un élève. On peut dire que là, si on veut essayer de préciser exactement de quoi il s'agit là, on peut dire comme ça. On sait que, pire qu'avot, on sait, que celui chez Chochmato Meruba Mima Asav, celui qui a plus de chokhma que de bonnes actions, c'est-à-dire, en fait. Alors, sa chokhma, elle ne durera pas. C'est-à-dire, il ne restera pas à ce niveau-là. Donc, si l'élève reçoit la Torah de son maître, reçoit de la Torah, et qu'il n'accepte pas les tochachot, ça veut dire que la Torah qu'il reçoit, c'est une Torah égale Chochma qui est Meruba Mima Asav, D'accord. Elle est plus vaste que sa conduite. C'est-à-dire qu'il ne se conduit pas à la hauteur de la Torah qu'il a reçue. Puisque si le maître lui fait une Torah, ça veut dire... Qu'est-ce que c'est qu'une Torah? Des remontrances, ça veut dire que, là en l'occurrence, que le maître va remettre devant les yeux de son élève la Torah qu'il lui a enseignée, pour que l'élève prenne conscience de ce que sa conduite n'est pas cohérente, avec, n'est pas en conforme à la Torah que son maître lui a enseignée. Donc, comprends bien que s'il n'accepte pas la Torah, ça veut dire qu'il va en rester à une conduite qui n'est pas cohérente avec la Torah. On lui a donné comme ça la Torah, et puis son action, elle est comme ça. Et donc, on dit, là, il y a un risque sur la Torah, il va perdre sa Torah. Et donc, comme cette Torah ne restera chez lui que si il fait plus ou au moins jeu égal en quelque sorte dans son action que ce qu'il a reçu comme Torah, donc si on n'est pas dans ce cas-là, alors il faut qu'il s'en aille pour préserver sa Torah en fait. S'il reste, il est en train de détruire sa Torah. Et on peut amener une source pour cette interprétation ici. C'est que la Gemara, hein, sur le passouk où Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, « Allez, Elai Ahara, monte vers moi sur la montagne. Ve'etna lecha et luchot ha'even. » Je te donnerai les tables de pierre. Vet ha Torah, vet ha mitzvah, et la Torah, et la mitzvah, asher katavti lehorotam, sur laquelle j'ai écrit, enfin, sur lesquelles j'ai écrit, pour enseigner au Bnei Israël, pour dire au Bnei Israël ce qu'il devait faire. On sait bien, c'est l'uchot là, c'est aseret adibrot. Ça, c'est la Seret HaDibrot. Ensuite, il lui a dit Vet HaTorah. Torah, dit la Gemara, c'est Mikra. C'est la lecture du texte. Veha Mitzvah, on a vu dans le morceau précédent, c'est la Mishnah. Asher Katavti, c'est les Nevi'im et les Ketuvim. Le Horotam, Zugmara. Le Melamed, Shekulam Nitnu le Moshe Misina. Certains disent qu'effectivement, sur les premières Luchot, tout y était. Y compris la Gemara et tout. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin, on n'aurait pas eu besoin, si on avait vécu à la hauteur de ces premières Luchot, tout le Amal, la Torah dont on a parlé dans Parchat de Chukotai, tout l'effort, tout le travail ici, n'aurait pas été nécessaire. On n'aurait eu qu'à lire en quelque sorte, et on aurait compris, tout était là. En tout cas, ça veut dire en tout cas que tout ça a été donné à Moshe Rabbeinu. Au début de la Gemara dans Megillah, on dit que Arbe Nevi'im Amdu Lahem l'Israël, il y a eu de nombreux prophètes pour Israël, mais évidemment, donc, c'est-à-dire, il y avait beaucoup plus de prophètes que ceux qu'on a dans le livre des Nevi'im et Ketuvim. Et puis, ils ont dit beaucoup plus de choses que ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit, on a seulement écrit ce qui était nécessaire pour les générations à venir. Dans la mesure, si c'est dans les Nevi'im que nous avons, c'est pour ça que ça a un sens. C'est que ça nous concerne, nous, ici et maintenant. Et ça concerne toutes les générations. Les Nevuot qui étaient les Nevuot qui ne servaient qu'à la génération dans laquelle vivait le prophète qui les a données, n'ont pas été écrites. Et Rashi dit Qu'est-ce que c'est qu'une nevoie chez Utsrecha la Dorot? Qu'est-ce que c'est qu'une nevoie qui est nécessaire pour les générations? Qu'est-ce qu'on a? Alors Rashi explique, Haïnou le Tochacha. C'est les nevoies qui nous servent à faire des remontrances. Enfin, qui sont des remontrances pour nous. Donc on voit que une nevoie qui n'a pas été écrite, elle était sans aucun intérêt de Tochacha pour les autres générations. Et néanmoins, bon, alors maintenant, donc ça c'était, ça n'a pas été écrit. Maintenant, ce qui a été écrit uniquement pour la Tochacha, en fait. Ça a été écrit sur les louchot que Hachem a donné à Moshe, ou ça veut dire c'est inclus dans l'alliance de Matan Torah et du Har Sinai. Puisqu'on a dit Asher katavti elu nevim uktuvim. Ce que j'ai écrit, dit Hachem. Et ça concerne les nevim et les ktuvim, c'est-à-dire d'après Rashi les Tochachot. Donc on voit que donner la Tochacha, c'est une partie, enfin, si on parlait comme ça, on a reçu les Tochachot comme on a reçu la Torah. C'est une partie du Matan Torah. Donc maintenant, de la même manière que le don de la Tochacha est une partie du don de la Torah, de la même manière, l'acceptation de la Tochacha, elle est une partie de l'acceptation de la Torah. Et donc un Talmide qui n'accepte pas la Tochacha, il ne peut pas habiter auprès de celui qui lui donne la Torah, celui dont il accepte la Torah. Puisque, en fait, ça voudrait dire qu'il n'accepte pas vraiment sa Torah. Pas seulement qu'il n'accepte pas la Torah, mais c'est une partie de l'acceptation de la Torah. C'est en cela, hein, pour revenir à ce qui était notre point de départ sur le Sefer Dvarim, la caractéristique de Sefer Dvarim. On voit que d'après ce qu'on a vu, on avait l'obligation, puisque Moshe Rabbeinu nous a enseigné la Torah, on a accepté, on a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu, on doit accepter sa Tochacha. Or, le Sefer Dvarim, c'est la Tochacha de Moshe Rabbeinu. Et donc, de la même manière qu'il y a une spécificité du niveau de Moshe Rabbeinu en prophétie, de la même manière, il y a aussi une spécificité du niveau de Tochacha de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, la Tochacha de Moshe Rabbeinu, elle est à la hauteur de sa nevoie, de sa prophétie. Parce qu'évidemment, normalement, là, de façon générale, la Tochacha d'un maître, elle est à la hauteur de la Torah du maître. Parce que la Tochacha, c'est de lui représenter, de présenter à son élève la Torah qu'on lui a enseignée et qui est en contradiction avec sa conduite. C'est ça une Tochacha. Or, la place du Sefer Dvarim, c'est la Tochacha, comme je vous ai dit, de Moshe Rabbeinu. Rashi l'explique déjà dès le début du Sefer Dvarim. Et donc, de la même manière qu'un maître n'est pas un maître s'il n'a pas un impact sur la Torah, si en quelque sorte S'il ne donne pas des livrets de Torah, il n'est pas un maître. De la même manière, s'il ne donne pas de Torah, il n'est pas non plus un maître. Parce que c'est inclus dans le Matan Torah. Et c'est la raison pour laquelle Yoshua était tellement attaché au Sefer Dvarim en particulier. C'est que de la même manière que Yoshua est le chaînon, il met le premier chaînon dans la chaîne de transmission qui part de Moshe Rabbeinu, qui transmet la Torah, les paroles de Torah, de la même manière, puisqu'un maître transmet aussi la Torah, il est aussi le premier maillon dans la chaîne de la Torah qu'on doit donner au clan Israël. Et donc tout maître qui enseigne, enfin qui donne une Torah à son élève, c'est pas simplement qu'il accomplit la mitzvah de Torah, mais qu'il est en train de transmettre, comme un maître à son élève, un contenu de Torah. Et le début, le premier maillon de cette chaîne-là, c'est le Sefer Dvarim. Et c'est pour ça que Yoshua, qui est le premier maillon lui-même, il est attaché au Sefer Dvarim. Et c'est pour ça qu'Hachem lui dit, ce Sefer, il ne doit pas quitter ta bouche, tu dois l'avoir en permanence avec toi. De la même manière que tu dois avoir la Torah, c'est, me semble-t-il, lié avec ce que on a vu précédemment. Bon, c'est ça qu'il s'agit de transmettre. Donc le Sefer Dvarim, le prendre comme ce qui, dans la transmission de la Torah, est la partie Torah. C'est une partie de la Torah, et donc on doit accepter la Torah, donc le Sefer Dvarim, comme une partie de la Torah orale. Et c'est pour ça que le Sefer Dvarim, il est quelque part, puisque ce qu'il fallait transmettre, c'est pas ce que Moshe Rabbeinu a écrit, c'était écrit ça. D'accord ? Ce qu'il fallait transmettre, c'est la Torah chez Baal Pé. Ah, et le Sefer Dvarim, il est dans le Sefer Torah, enfin, c'est un des Hamisha Chumshe Torah. Oui, mais c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, c'est la nevoua de Moshe Rabbeinu, et il n'a pas le même statut que les quatre autres livres. D'abord parce que dans les quatre autres livres, c'est Hachem qui parle par la bouche de Moshe. Ici, c'est Moshe qui parle. Ce qu'il a reçu d'Hachem, mais pas comme dans les autres Sfarim où il n'existe pas. Les autres Sfarim, quand Hachem parle, c'est toujours par l'organe de Moshe, mais on ne nous dit pas à chaque fois ça passe par la bouche de Moshe. Parce que Moshe était complètement transparent dans la transmission des quatre premiers livres. Tandis qu'ici, Moshe Rabbeinu existe. Il existe comme tous les prophètes. Bon, c'est une voie plus élevée, mais il existe comme tous les prophètes. Au sens où ça passe à travers lui, et c'est modifié par lui. C'est sa formulation, c'est pas la formulation, c'est pas la parole divine de la même manière. Et d'ailleurs, on voit très bien, c'est le chaînon qui permet de passer de la Torah chez... Il y a continuité entre la Torah... entre la Torah écrite et la Torah orale. Et le chaînon de passage, c'est le Sefer Dvarim. Et du coup, ça a l'air de vouloir dire que le passage entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Peh, c'est la Torah. Puisque au fond, la Torah, bon, ça c'est pas qui le dit, il me semble que c'est comme ça, parce qu'au fond, la Torah, c'est quoi? C'est de représenter le texte de la Torah à l'élève et de le confronter ça avec ce qu'il est. Or, la confrontation du texte avec ce que nous sommes, c'est ça le travail de la Torah chez Baal Peh. Le travail de la Torah chez Baal Peh, c'est ça justement, exactement ça. C'est se confronter avec le texte. Voilà, on va s'arrêter là.